Vous écoutez, on lit pour vous.
La famille est un nœud au ventre qui ne se défait pas. Une chronique de Vanessa Bell, parue le 10 février 2025 dans Les Libraires. Je rédige cette chronique depuis la campagne suédoise où je tente d'écrire un livre. Furieusement, je noircis de mots des dizaines de pages du lever du soleil à son zénith. L'après-midi, je sors marcher, un livre à la main. Chaque jour, une voix différente accompagne le mouvement de mes jambes vers les sommets des montagnes nues. Là-haut, la vie est plus intense. Le vent bourrasque le corps, siffle dans la tête, couvre le bruit du monde. Une sorte de permission pour mieux glisser dans les livres. Mon regard alterne entre les couleurs éclatantes des mousses coloriant les rochers et les îles groupées à l'ouest, formant une barrière naturelle entre la mer et le fjord où j'habite. D'ici, je vois tout. Les troupeaux de mouflons, les villages le long des côtes, la forêt et la mer, la lumière à perte de vue. J'attrape un verre, puis un autre. Je me tiens en équilibre parfait entre le ciel et la terre. Retour sur terre. Au rang des splendeurs, je désigne le deuxième recueil de Stéphane Pichet, véritable orfèvre du poème. Après le remarqué « Combat du siècle », l'auteur revient avec sa tendre force de frappe dans une œuvre qui témoigne de toute l'attention qu'il porte aux vivants, aux secrets dans sa lenteur. C'est un chant d'honneur, un plaidoyer d'amour qui lie, dans son essence la plus pure, l'histoire commune des bêtes et des hommes. Rares sont les livres aussi fulgurants dans leur silence. Ici, tout est savamment déposé de manière à flouer les frontières entre les sujets et ce qui se présente comme des autoportraits animaliers. Amour et présence. Voilà ce que disent les poèmes. J'aime les très vieux chiens, leur démarche arthritique d'insecte, le sourire que la fatigue n'a pas encore excusé. Ils sont pour moi l'amour, la poésie, monument chancelant. Quand ils se couchent à vos côtés, ils en oublient le monde. Mes vieux chiens, mon miroir. Retour sur Terre, les éditions du Passage, est un livre de grâce qu'il faut traverser à la vitesse de la tortue, acceptant de devenir tour à tour chien, oiseau, poisson, insecte, mammifère marin. Il faut la mémoire longue de ce qui survit d'une ère à une autre pour saisir l'ampleur de la beauté naïve et humoristique que Pichet y laisse en héritage. Je souhaite à ce livre une vie aussi vaste que le cœur du poète. Et salutations, Jackie. But the end of innocence is also the end of guilt. Dans son premier recueil épatant, Angelina Guo trace avec finesse les interstices qui la composent. Entre le chinois perdu, l'anglais appris pour communiquer avec ses parents, le dépanneur familial et l'école québécoise, se dessine l'arc d'une tension aliénante où son identité, suspendue entre les langues et les âges, est mise à mal par la promesse d'un premier amour. Aussitôt le mot prononcé, le démembrement commence. Dans une composition habile, l'autrice dépeint avec justesse les suites de ses agressions par un jeu de traduction mettant à nu tout ce qui est « lost in translation », mais aussi ce que chaque langue lui permet de dévoiler d'elle-même. Guo en fait le récit en français, en anglais et en chinois, comme devant autant de témoins de ses identités multiples et communicantes, associant du même souffle son récit personnel et judiciaire aux violences systémiques. Je mentionne les voisins, mais pas mes parents, même s'ils sont venus me chercher. je refuse de traduire en chinois l'étendue de ma honte. » Avec Comparution, le Cartanier, la primo-poète se tient debout dans la tempête, renversant la pluie, retournant toutes offenses vers les cieux. Si j'arrête, je meurs. Toutes les fois que je passe près du poêle à bois, j'imagine mon corps aspiré par les flammes, ma peau coulée en lave sur l'origine de mes os. Je chauffe. Comment dormir au fond du brasier? Avec Aller au corps, le Norrois, Laurence Veilleux semble toucher à la ligne d'arrivée d'un cycle d'écriture sombre, fait de statuettes, de rituels, de bêtes et de petits gibiers, de trappes et de ruses qui cassent l'enfance. Le dernier voile d'une série qui cache le cœur est levé, la poète est allée au corps du père en éclats de rire. S'il me tarde de savoir ce qui suivra dans l'œuvre de l'autrice, quand cet écho aura fini de résonner, je ne peux faire fi de celui qui gronde et écorche à sa suite. Plus grande que son œuvre, la parole de Veilleux apparaît dans le milieu poétique québécois comme l'étoile polaire d'une constellation d'écriture. Une sorte de force tranquille qui, par sa présence, informe sur la lumière des corps avoisinants. À travers les thèmes de la maison et du territoire, je pense immédiatement à l'éclat blanc de l'écriture d'Emmanuel Simard. À travers les thèmes du viol, de l'inceste, des secrets qui savent tuer, je pense à deux parutions de l'automne dernier qui m'ont bouleversée et pour lesquelles j'ai dû attendre quelques mois avant de savoir écrire à leur sujet. À l'inceste, je nomme « Tout brûlé » de Lucille de Pesloin, Leméac, qui brûle et brûle et brûle et brûle, jusqu'à tout dire, jusqu'à tout consigner, jusqu'à crier comme l'enfant de 4 ans qu'elle a été. Béante de son récit, je consigne côte à côte dans mon carnet de lecture « Faire famille, tirait Lucille. La famille est un nœud au ventre qui ne se défait pas, tirait Laurence. » Pourtant, à force d'écrire, le nœud se déleste, dévoilant des taches de sang, le même sang qui apparaît à la culotte, sur les cuisses, à la toilette, sous les ongles. Au viol, je retrouve le premier recueil de Lula Carballo, Post-espoir, le Norrois, un texte si vrai que sa vérité en est belle. Lula, Lucille, Laurence, Angelina et combien d'autres se tiennent en constellation. L'économie des unes explique l'expansion des autres. Elles écrivent depuis un brouillard commun opaque ou levé qui énonce « Nous ne sommes plus la même personne après avoir subi l'expérience de la violence ». Toutes quatre disent une vérité commune au destin des femmes. À défaut de changer les dynamiques de pouvoir, je nous souhaite que leur livre change la honte de Caen. C'était « La famille est un nœud au ventre qui ne se défait pas », une chronique de Vanessa Bell, parue le 10 février 2025 dans Les libraires.
Ce qu'on devrait dépenser pour l'achat d'un véhicule. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 20 août 2023 dans La Presse. Oh, je sens que certains d'entre vous ne vont pas m'aimer cette semaine. Mais je l'assume. Écrire dans le journal vient avec des privilèges. Ne pas se faire engueuler de temps en temps n'en fait pas partie. Vous ne m'aimerez pas, parce que je vais parler de votre véhicule. Oui, oui. Celui-là même qui est entreposé dans l'entrée, dans le garage ou sur la voie publique et qui vous appauvrit 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 52 semaines par année. En fait, je profite de la porte ouverte la semaine dernière par Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, selon qui il va falloir réduire de moitié le nombre de véhicules au Québec pour cesser d'ajouter du CO2 dans l'atmosphère d'ici 2050. Le nombre de véhicules augmente bien plus vite que la population au Québec depuis 20 ans, a remarqué le ministre. En plus de causer de la pollution, nos habitudes de transport nous coûtent excessivement cher et cet argent pourrait servir à nous enrichir. Beaucoup de citoyens disent être pris à la gorge depuis la hausse des taux d'intérêt. Je ne nie pas que ce soit vrai, mais dans au moins une partie des cas, si on recule d'un pas, on découvre que les mains qui leur serrent la gorge avec tant de force sont leurs propres mains. En Amérique du Nord, l'un des coupables est notre choix de mode de transport. Trou noir financier. J'ai longtemps eu du mal à mettre le doigt sur une règle à suivre pour le choix d'un véhicule. Cet achat est à l'évidence un trou noir financier. Chaque boîte de métal de 1900 kilos que j'ai possédée m'a donné un excellent point de vue sur la destruction de richesses que ces machines peuvent accomplir. Assurance, dépréciation, nouveaux pneus, nouveaux freins, essence, changement d'huile, égratignures en tout genre, sans parler du stationnement, des frais d'immatriculation, des constats d'infraction. Prise isolément. Chaque dépense semble raisonnable. Mise ensemble, elle se transforme en une meute de chiens enragés lâchés dans nos finances. J'ai longtemps eu du mal à trouver une bonne règle. Mais je suis tombé récemment sur une vieille règle qui a permis à des milliers de personnes d'épargner collectivement des millions de dollars, règle que j'ai suivie dans ma vie sans m'en apercevoir. D'abord, ce que j'aime dans cette règle, c'est qu'elle tient compte de la composition chimique du cerveau humain. Par exemple, on sait que l'effet d'euphorie de la possession d'un nouveau véhicule s'estompe au bout de 6 mois environ. Après cette période, nos niveaux de dopamine cessent de grimper lorsqu'on s'assoit au volant de notre machine. Notre véhicule n'est plus un cheval blanc, un vaisseau spatial du futur, l'ingéniosité du monde fait objet. Il devient, à nos yeux, ce qu'il n'a jamais cessé d'être aux yeux des autres. Un véhicule de plus dans une province qui en compte déjà 5 200 000. Les choix des millionnaires. Acheter un véhicule neuf est par conséquent un piège qui fait disparaître des milliers de dollars en dépréciation pour un peu de cuir rigide et pas grand-chose d'autre. C'est d'ailleurs pour cette raison que les millionnaires américains ne conduisent généralement pas de véhicules neufs et préfèrent les Toyota et Honda aux marques de prestige. Alors, de quoi s'agit-il? La fameuse règle dit qu'on ne peut pas dépenser plus que 10% du revenu annuel brut de son ménage pour l'achat d'un véhicule. L'objectif est de le garder pendant 5 ans au minimum, idéalement 10 ans. En clair, un couple qui gagne la moyenne québécoise de 81 000 $ par année ne devrait pas dépenser plus de 8 100 $ pour l'achat d'un véhicule. La bonne nouvelle, c'est que le prix des véhicules usagés a beaucoup chuté depuis les sommets des dernières années. Kijiji et Marketplace débordent de petits et gros véhicules en bon état qui se vendent autour de 8 100. On en retrouve actuellement plus de 7 000 au Québec sur Kijiji, notamment une Honda Civic 2012, une Subaru Impreza 2009 et une Nissan Leaf 2012. Ça, c'est pour le ménage moyen. Si votre ménage gagne la somme princière de 150 000 $ par année, vous pouvez vous gâter et dépenser 15 000 $ pour votre prochain véhicule. Près de 14 000 véhicules sont offerts à ce prix ou moins sur Kijiji au Québec. Pour 15 000 $ vous pouvez vous procurer une valeur sûre comme une Toyota Corolla 2018 ou une Honda CR-V 2017, une camionnette Ford F-150 2015 ou encore un luxueux VUS Audi 2014. Ces véhicules ne sont pas assez opulents pour vous? Le problème avec les véhicules, c'est qu'on les compare de façon horizontale, c'est-à-dire avec ceux de nos contemporains. Ces derniers sont en majorité endettés et mauvais avec l'argent. Le prêt au taux moyen au Canada affichait un solde de plus de 26 000 $ au premier trimestre de 2023. Alors, ça va biaiser notre comparaison. Il est plus juste de comparer avec la vie de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Je ne crois pas me tromper en affirmant que 99% des 10 000 générations qui nous ont précédés sur cette terre perdraient connaissance si elles pouvaient revenir à la vie et se mouvoir à bord d'une Toyota Corolla 2018. Seulement activer l'air climatisé et les vitres électriques ferait de nous des quasi-dieux aux yeux de toute personne ayant vécu sa vie avant 1950, y compris les personnes les plus riches et les plus puissantes de la société. Que faire si vous gagnez moins de 25 000 $ par année? Selon cette règle, vous ne pouvez pas acheter un véhicule automobile sécuritaire. Parmi vos options, vous avez le covoiturage, le vélo électrique, le scooter, les transports en commun ou un mélange de tous ces modes de transport. Notez que cette règle a pour but l'enrichissement, qui est une autre façon de dire sécurité, liberté, indépendance et baisse de stress. Si cela ne vous intéresse pas, ou si votre maison est payée et que vous avez 3 ou 4 millions en actifs financiers, sentez-vous bien à l'aise de l'ignorer. D'ailleurs, je possède des actions de plusieurs constructeurs automobiles dans mes fonds indiciels. Je suis copropriétaire de Volkswagen, Mercedes, Toyota et Tesla, pour n'en nommer que quelques-uns. Et je serais ravi de vous avoir comme client. Nos taux de financement sont imbattables. C'était « Ce qu'on devrait dépenser pour l'achat d'un véhicule », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 20 août 2023 dans La Presse.
Les différences intergénérationnelles du point de vue de la relève, un texte de Jean-Philippe Giroux, paru le 7 août 2023 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Chaque génération a ses propres défis et sa propre réalité. La communauté acadienne, comme tout peuple, évolue à travers le temps dans un contexte particulier. Mais est-ce que la vie des Acadiens des nouvelles générations est si différente de celle de leurs prédécesseurs? Dans son patelin, Gabrielle Sanson a établi de bonnes relations avec les membres de sa famille. Elle mentionne que nombre de personnes à l'île Madame ont même été élevées par leurs grands-parents, ce qui a permis une transmission culturelle. Elle remarque que chaque génération a eu des défis différents. Ses grands-parents ont grandi à une époque où les gens étaient dévalorisés s'ils vivaient leur culture. La génération de ses parents a eu la chance d'obtenir une éducation bilingue. Mais encore, la dévalorisation était présente, se sentant inférieure à la majorité anglophone, mais aussi à d'autres francophones. Selon Valérie Kendall, directrice générale de Radio CKJM à Chéticamp, sa génération a eu la vie facile comparativement aux Acadiens de 50 ans et plus qui ont grandi à une époque où parler le français n'était pas bien vu par tous. Ils ont eu besoin de se battre, raconte-t-elle. C'était vraiment à se battre pour garder leur langue et avoir leurs droits, avoir leurs écoles. Les nouvelles générations sont plus scolarisées, ce qui est bénéfique à bien des égards, mais ça entraîne un autre lot de défis. Avec plus de standardisation linguistique dans les écoles, l'insécurité linguistique entre les générations s'est développée. Gabrielle l'a vécu avec sa grand-mère, qui est allée à l'école jusqu'en sixième année. Elle était convaincue que sa fille était trop bonne en français pour lui parler dans cette langue lorsque sa petite fille a atteint la septième année. La solution? Rassurer sa grand-mère que rien ne doit changer. C'était vraiment de trouver les registres qui permettaient de continuer la communication et vraiment la persévérance de dire « Non, je ne veux pas que tu changes de langue avec moi. On va travailler ensemble pour bâtir ce qu'on a. » Gilles Saunier de Claire fait remarquer que sa génération a été grandement influencée par Internet. Elle intègre beaucoup plus les caractéristiques culturelles et linguistiques de la culture populaire de l'Amérique du Nord. Les vieilles générations, de leur côté, ont inculqué des valeurs davantage traditionnelles et catholiques. Dans une société qui se laïcise, le guide de valeurs des jeunes est en train de changer, ce qui se traduit souvent par l'ouverture et l'expérimentation sociale. Les prochaines générations, en dessous de 25 ans, vont peut-être avoir besoin d'un autre « fight », de se battre encore pour garder leur langue, dit Valérie Kendall. Cette dernière remarque aussi que l'influence de l'anglais est plus forte chez les jeunes qui n'ont pas le même rapprochement avec la langue acadienne. Ayant passé beaucoup de temps avec sa grand-mère en grandissant, Valérie a eu la chance d'entendre du vieux français quotidiennement, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde dans sa communauté, précise-t-elle. La chétique antenne ne pense pas que le parler de ses parents et de ses grands-parents sera le même pour les prochaines générations, ce qui peut être difficile à accepter. Or, elle insiste sur le fait qu'il faut continuer à mettre l'accent sur la fierté acadienne et ne pas arrêter de la nourrir. Cette fierté se voit notamment dans le monde des arts, où les créateurs acadiens se taillent une place. Ce qui change, dans le sens positif, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes acadiens qui font fureur à l'international, constate le comédien Robert D'Entremont, originaire de Pobnicot. Selon lui, ces artistes sont en train de ramener une fierté chez les jeunes et que la culture est encore vivante grâce à eux. C'était « Les différences intergénérationnelles du point de vue de la relève », un texte de Jean-Philippe Giroux paru le 7 août 2023 dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.
L'homme qui murmure à l'oreille des avions. Un texte de Julien Arsenault paru le 21 août 2023 dans la presse. Les 25 à 44 ans changent d'emploi en moyenne tous les 5,5 ans. Ça n'a pas toujours été ainsi, mais la dernière génération à avoir consacré sa vie entière à une seule entreprise aura bientôt quitté le marché du travail pour de bon. La presse a fait le tour du Québec pour rencontrer ces travailleurs qui éprouvent encore du plaisir au boulot. Si vous avez déjà volé avec Air Canada, Claude Blouin a probablement passé l'appareil au peigne fin avant que vous ne montiez à bord. Les avions n'ont plus de secret pour ce spécialiste de la maintenance. Pas le temps de songer à changer de carrière quand on ne sait jamais ce qui peut survenir sur le tarmac. À 62 ans, M. Blouin entame sa 41e année chez Air Canada si l'on tient compte de ses années de service chez Canadian Airlines International, acheté par le transporteur établi à Montréal au tournant des années 2000. Valves défectueuses, pépins électroniques, ennuis mécaniques, ce sexagénaire ne compte plus les problèmes qu'il a réglés depuis le début de sa carrière. Il connaît tous les recoins d'un aéronef. « J'ai l'air de juste regarder l'avion, mais je l'écoute et je le sens », explique-t-il à la presse sur le tarmac de l'aéroport Montréal-Trudeau. « Quand j'arrive devant un moteur, je regarde à l'intérieur, mais je sens. Si ça sent le poulet rôti, il y a un oiseau qui est passé ici. On ne le voit pas, mais tu le sens. Il y a bien des choses qui se passent qu'on ne voit pas. » Ne pas savoir ce qui l'attend demain et être dans le feu de l'action, c'est le quotidien de M. Blouin. C'est aussi ce qu'il a toujours recherché, offrir une cure de rajeunissement de plusieurs semaines à des avions envoyés dans un hangar pour de la maintenance lourde. Ce n'est pas sa tasse de thé. « Je n'aime pas trop savoir ce que je vais faire demain matin », raconte-t-il. « Ici, c'est en direct. Quand le pilote te dit « Eh, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ?» C'est comme un rush, l'adrénaline part. « Moi, « je suis un gars d'équipe », ajoute-t-il. « Je ne suis pas du style à travailler seul dans un bureau. Mets-moi pas là, ça ne fonctionnera pas. » Révolution numérique. M. Blouin a été aux premières loges de la transformation de l'industrie aérienne. Les temps ont bien changé depuis les années 1980, lorsque les avions ne te parlaient pas, explique-t-il. À l'époque, chaque modèle d'aéronef avait son propre manuel technique, une bible de plusieurs milliers de pages qui répertorie tout ce qu'il y a à savoir sur l'appareil. Aujourd'hui, la bibliothèque se trouve dans une tablette où tous les exemplaires sont à portée de main. Les multiples allers-retours au cours d'un quart de travail pour aller chercher les livres que l'on retrouve encore dans les cabines de certains appareils, c'est chose du passé. Maintenant, la tablette contient des programmes et l'on peut savoir quand une valve commence à fonctionner de façon irrégulière, affirme M. Blouin. Avant, il fallait développer ses aptitudes de détection parce que l'appareil ne parlait pas. On consultait le manuel en feuilletant les pages. Maintenant, on a accès à beaucoup plus d'informations, nous dit Claude Blouin. La routine n'a jamais fait partie de la carrière de M. Blouin. S'il est établi à Montréal-Trudeau depuis 2012, son emploi l'a amené à se déplacer et même à voyager. Il s'est retrouvé parmi les spécialistes qui effectuent les vérifications pour les avions qui transportent le Premier ministre du Canada. À plus d'une reprise, M. Blouin a veillé au grain pour s'assurer que les vols de Jean Chrétien, Paul Martin et Stephen Harper se déroulent sans anicroche. Il est maintenant affecté à un quart de jour grâce à son ancienneté, ce qui n'a pas toujours été le cas pour M. Blouin. À l'instar de nombre de ses collègues, il a travaillé les nuits, les fins de semaine, ainsi que pendant les journées fériées. Sa longévité chez le même employeur, Claude Blouin la doit également à sa conjointe, prend-il soin de préciser. C'est quelque chose que l'on oublie, mais moi, je donne tout le crédit à mon épouse, dit-il. Elle a été capable d'être là avec les enfants quand moi j'étais parti. Je suis chanceux, je travaille sur le chiffre de jour, mais il y a des plus jeunes qui travaillent la nuit pendant des années. C'est un travail passionnant, mais ça amène toutes sortes de difficultés. Souvenir de la première journée. Après plus de 40 ans chez le même employeur, on ne se souvient pas toujours de sa première journée de travail. Pour M. Blouin, ses souvenirs sont encore gravés dans sa mémoire, raconte-t-il en riant. J'en avais parlé à mon père. J'ai dit, « Papa, ils m'ont engagé et la seule affaire qu'on fait, c'est de jouer aux cartes. Ça n'a pas de bon sens. On nous paye à ne rien faire. » Canadian Airlines était en rodage pour de la maintenance lourde. L'entreprise augmentait l'effectif, mais il n'y avait pas encore de job pour nous. Ça a changé après un petit bout de temps. C'était « L'homme qui murmure à l'oreille des avions », un texte de Julien Arsenault paru le 21 août 2023 dans la presse.